Audiolib présente Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, lu par Ingrid Donadieu. À mes parents, Frank et Johan Nelson. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Chapitre 1. L'écho des voix dans la salle à manger s'envole dans la cage d'escalier en noisetier. Indistinct, bourdonnant et importun. D'une main tremblante, je verrouille la porte derrière moi. L'univers est soudain plongé dans un silence total. J'appuie la tête contre la porte et je prends une inspiration profonde. Son parfum envahit encore la chambre. Mélange d'eau d'Adrien et de savon au lait de brebis. Son lit en métal grince lorsque je m'y allonge. Un bruit aussi rassurant que le tintement de ses carillons dans le jardin. Ou celui de sa voix douce, lorsqu'elle me disait qu'elle m'aimait. Je venais dans ce lit quand elle le partageait encore avec mon père, me plaignant d'un mal de ventre ou de monstre sous mon lit. À chaque fois, maman me prenait avec elle, m'étreignait et me caressait les cheveux en murmurant « Demain est un autre jour, ma chérie. Attends encore un peu. » Et comme par miracle, je me réveillais le lendemain matin pour découvrir des rubans de lumière ambrée s'insinuant à travers la dentelle de mes rideaux. D'un coup sec, j'enlève mes escarpins noirs flambant neufs et me masse les pieds avec soulagement. Je recule sur le lit et m'adosse aux oreillers jaunes à motif cachemire. Je vais garder ce lit, c'est décidé. Peu importe qui d'autre le convoite, il est à moi. Mais cette vieille maison élégante en grès va me manquer. Elle est aussi solide que mamie, disait maman en parlant de sa maison. Mais à mes yeux, aucune maison, aucune personne ne l'était autant que la fille de mamie. Ma propre mère, Elisabeth Bollinger. Une pensée me traverse soudain l'esprit. Je ravale mes larmes et descends du lit. Elle l'a cachée ici, je le sais. Mais où exactement? J'ouvre la porte du placard. Mes mains tâtonnent derrière les robes et les tailleurs griffés. Je repousse une rangée de chemisiers en soie et ils s'écartent comme un rideau de théâtre. La voilà, nichée dans le meuble à chaussures comme un bébé dans son berceau. Une bouteille de Krug séquestrée dans son placard depuis 4 mois. Lorsque je la tiens enfin entre mes mains, je me sens coupable. C'est le champagne de ma mère, pas le mien. Elle avait claqué une fortune pour cette bouteille en rentrant de son premier rendez-vous chez le docteur et l'avait aussitôt rangée là pour ne pas la confondre avec les bouteilles classiques au rez-de-chaussée. C'était le symbole de l'espoir, avait-elle décrété. À la fin de son traitement, quand elle retrouverait une santé de fer, elle et moi ouvririons ce champagne des grandes occasions afin de célébrer la vie et ses miracles. Je caresse du doigt l'aluminium argenté autour du bouchon et me mords la lèvre. Je ne peux pas le boire. La bouteille était prévue pour un toast joyeux, pas pour une fille endeuillée, trop faible et incapable de supporter une réception post-funéraille. Quelque chose attire mon regard. Calé entre la cage du champagne et une paire de mocassins en daim. Je tends le bras. C'est un petit carnet rouge. Un journal intime, me semble-t-il, fermé par un ruban d'un jaune fané. La couverture en cuir est craquelée et abîmée. « Pour Brett », a-t-elle écrit sur une étiquette en forme de cœur. « Garde-le pour un jour où tu te sentiras plus forte. Aujourd'hui, lève ton verre en notre honneur à toutes les deux, ma chérie. Quel duo on a formé. Je t'aime, maman. » Je passe le doigt sur son écriture. Pas aussi impeccable qu'on pourrait l'attendre chez une femme si belle.